tourne là. Et pourquoi pas faire le tour de la terre? Il est quelle heure au Guatemala? J'ai jamais pris de fusée horaire, toujours suivi les mêmes schémas. Car la roue tourne, car la roue tourne. Retourne là, 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 là.
Radio Vélo en ce lundi, non, mercredi, si on va jamais y arriver à ce changement de jour. J'espère que vous, vous y êtes, apparemment oui, vu que vous êtes toujours plus nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur le Twitter, @radiovélo31, le Facebook, Radio Vélo, toute équipe est là, l'équipe 2015 de Radio Vélo avec à mes côtés Benjamin.
Bonsoir à toutes et tous.
Bienvenue Guillaume de la partie.
Bonsoir tout le monde.
Salut également Flavien.
Salut à tous.
Et notre ami Julien.
Bonsoir à toutes et à tous.
Le programme,
oui. Oui, j'espère que vous avez passé une bonne semaine depuis mercredi dernier. Quoi.
À fond les roulettes, comme sur des roulettes, avec un programme, et eh bien.
Des roulettes, il m'en faut des roulettes, toi.
Non, mais il m'en faut des roulettes, oui. Programme ultra chargé, avec un petit retour sur la Vuelta, avec un invité original, je dirais, un Breton qui est ostéopathe chez Astana, qui le savait, dans le peloton, pas grand monde. Mais en tout cas, on en parlera dans quelques instants avec Barnabé Moulin, qui est donc l'ostéopathe de Fabio Aru, qui a gagné la Vuelta, et puis Denis Ballier également. Sur le Tour de France, on parlera des mondiaux avec des débats sans langue de bois, comme vous en avez l'habitude dans Radio Vélo. Une interview de Fabrice Jeandès-Bos, personne n'en parle, mais il a fait une excellente Vuelta, le coureur d'Europe Car, qui, c'est la grosse nouvelle de la semaine, va continuer lui aussi sa carrière avec l'équipe de Bernardo, avec Direct Énergie, chez qui nous allons tous souscrire un contrat, bien évidemment, pour soutenir le cyclisme. Et on aura également.
Ça y est, t'es maqué.
Mélanie pour la. Non, je cherchais les tarifs, je leur demanderai. Je critiquerai plus l'équipe de Bernardo. Du coup, si je signe avec Direct Énergie, mais bon, n'en avez pas. La minute régionale, ça sera Mélanie, bien évidemment, avec notamment Santé Vous Sport et Canaille Cyclocross. Stéphane Pouliès, l'Albigeois qui enfile les victoires comme des perles chez les amateurs. Chez les amateurs, jusqu'à quand on lui posera la question. La chronique Matos Vélo et notre ami Guillaume qui est revenu d'Italie après avoir mis la saucée à Alberto Contador dans les montées. Et puis, à la minute Mad Max, vous avez compris, super programme. Que descargadas se me disparan, todos los relojes me separan y no me encuentro ya ni en la cama.
Je me rappelle mercredi dernier quand on faisait les pronos là pour. Nicolas, qu'est-ce qu'on disait, quoi? Arou, Dumoulin,
j'avais dit quoi? J'avais dit Arou, Dumoulin.
On avait dit Arou, non?
Ah, on avait dit Arou, et d'accord. Les copains disaient Rodriguez.
Qui c'est là qui avait dit Dumoulin? Ah, d'accord. Non, c'est comme ça.
Moi, à chaque fois, je donne des.
Vous avez dit quoi déjà?
J'avais dit Dumoulin.
Ah, Dumoulin, ouais.
2-3 avoir dit Arou.
Et le pire, c'est que j'ai parié contre mon pari sur les sites de Paris. J'étais sûr que Arou allait renverser le truc, ouais, en effet. Fabio Arou, donc vainqueur de la Vuelta, son premier grand tour, et oui, ça fait 2-3 ans qu'on le disait capable de gagner un grand tour. Ben là, c'est fait devant Purito Rodriguez et puis Rafał Majka, Nairo Quintana 4e, Chavez, le phénomène 5e et 6e, Dumoulin, qui est aussi une sensation parce qu'il a failli remporter la Vuelta jusqu'à l'avant-dernier jour.
Et oui, finalement, dès qu'Astana a commencé à faire la course avant le premier col, ben malheureusement pour Tom Dumoulin, ça a suffi pour le faire sortir et du maillot rouge et même du podium. D'ailleurs, on l'a vu, il était un peu mal placé, contrairement à la veille où il n'avait pas lâché 2 mm la roue de Fabio Aru. Là, il était un peu en retrait. Bon, pas grand chose, 2-3 places. Et il a dû faire un effort pour revenir dans la roue de Fabio Aru qui était calé dans le sillage de son équipier Mikel Landa. Un effort, je crois, où il ne s'est jamais remis. Et finalement, on l'a vu assez vite, toujours dans le même col, c'était l'avant-dernier col de la Vuelta. Un geste de la tête, un peu soufflé, très vite, on a vu qu'il y croyait plus, quoi. Je sais pas si vous l'avez vu, vous, mais.
C'était spectaculaire, en tout cas. Chapeau à ce garçon, parce qu'il a montré qu'il était là pour remporter peut-être un jour un grand tour. Il y a encore du boulot, il était dans la forme de sa vie, peut-être aussi, Tom Dumoulin.
Et peut-être qu'il a eu une, je sais pas du tout, après j'ai pas trop suivi, mais peut-être qu'il a eu une journée sans en ce moment-là, ou quelques minutes sans. Et des fois, ça suffit. Dans un col, hein, ça pardonne pas. Hein, surtout si Aru était vraiment dans une forme exceptionnelle et qu'il a vu que Dumoulin n'était pas bien du tout. il en a profité. Mais c'est vrai que on y a cru pendant longtemps. Il n'a pas manqué grand-chose. Effectivement, ça c'est prometteur pour l'avenir.
Ouais, prometteur pour l'avenir. Quintana n'aura pas gagné de Grand Tour, deuxième du Tour de France, quatrième de la Vuelta. C'est sûrement une déception, mais il y a toujours ce syndrome Valverde que pas grand monde met sur la table, mais qui pour moi est essentiel.
Oui, Valverde d'ailleurs qui a vraiment eu du mal. Hein. On sait qu'il est adepte des longues saisons, mais là sur cette Vuelta, on l'a vu ce dernier week-end. Il en pouvait plus. Il finit dans le groupe de Dumoulin, mais il bénéficie de Tom Dumoulin qui a pas été du tout relayé, puisque le seul à le relayer c'était Mikel Nieve. Et finalement, Tom Dumoulin s'est retrouvé seul. Même les concurrents du top 10 qui étaient avec lui l'ont pas relayé. Et je pense qu'il termine avec lui pour ça. Mais Valverde très loin. Quintana qui encore une fois, dès que la course est faite, plusieurs cols avant l'arrivée, il est devant, mais il a encore attaqué trop tard, même pour le podium.
Allez, on va accueillir notre premier invité de la soirée, et c'est un invité qui a vécu cette Vuelta de l'intérieur. C'est Barnabé Moulin, qui est ostéopathe de profession. Il me contredira si je me trompe. Et il a suivi la Vuelta au cœur de l'équipe Astana, vu qu'il s'est occupé de l'ostéopathie. J'imagine, on dit ça comme ça. Barnabé Moulin, bonjour.
Oui, bonjour, bonsoir, je ne sais pas comment on dit. Je suis ostéopathe et donc je m'occupe de la mécanique des coureurs dans cette équipe Astana, ouais, depuis maintenant 2 ans.
Donc depuis 2 ans sur les grands tours essentiellement, c'est ça, parce que le reste du temps vous avez un cabinet, c'est ça, Barnabé?
Oui, j'ai un cabinet, et puis j'interviens plusieurs jours par an. L'année dernière, j'avais fait une quarantaine de jours, cette année 70, et principalement sur les courses par étapes cette année. J'avais fait quelques classiques l'année dernière, et on s'est concentré plus sur les objectifs de courses par étapes, donc que ce soit au début de saison sur le Tour d'Algarve, Tour du Pays Basque, Catalogne... Et puis je suis intervenu aussi sur le Giro, Tour de France. Ouais, c'est assez complet sur l'année, quoi.
Et comment ça s'est fait cette rencontre? Alors, ça a été quoi la première compétition où vous êtes allé avec Astana?
Alors la première, c'était l'année dernière sur le Tirreno Adriatico. Et auparavant, la rencontre s'est faite par le bouche à oreille. En fait, j'ai été appelé par mon collègue qui se trouvait un de mes anciens profs à la suite d'un coup de main que j'avais donné à Warren Barguil là, pendant des vacances sur la Vuelta il y a 2 ans. Et puis, ça y est revenu aux oreilles, il m'a contacté et puis on est parti dans l'aventure, quoi.
Et donc vous voilà donc au cœur d'une très grosse équipe, une équipe qui joue la victoire sur les grands tours, avec notamment le vainqueur du Tour de France de 2014, Vincenzo Nibali. Vous y étiez en 2014?
2014 j'y étais, mais juste pour filer un coup de main, parce que j'étais pas prévu dans le planning, et comme il se trouvait que j'étais en vacances dans la région des Pyrénées à ce moment-là, j'ai donné un coup de main lors des 3 étapes des Pyrénées, et j'ai pu participer à la victoire de l'équipe là sur Otakam l'année dernière. Ouais, c'était assez sympa, ouais. Bon, cette année on a joué un peu moins de chance, parce qu'il y a eu la chute du Havre qui a hypothéqué les chances de victoire sur le tour. Mais le requin n'est pas mort.
Bonjour Barnabé. Oui, c'était pour savoir si au cours de cette Vuelta, par exemple, il y avait quelques informations sur la santé des coureurs ou autre qu'on ne savait pas, quelque chose que vous pourriez nous dire qui sort pas forcément dans les médias, par exemple.
Ouais, il y a rien de particulier, si ce n'est que on a failli avoir une cata là sur la dernière chute le vendredi là, donc.
Fabio Roux.
Fabio, ouais, qui est salement tombé le vendredi. Donc on a pas mal bossé. Hein. Je travaille en collaboration avec donc le Toubib et puis un acupuncteur qu'on a dans l'équipe. Et on a bossé sérieusement toute la soirée là pour le remettre sur pied. Et puis visiblement ça a bien marché. Hein.
Alors, avant de demander un peu plus en détail, peut-être avec Julien, en quoi consiste le rôle d'un ostéo, par exemple, je voulais savoir, alors ce Fabio Aru, c'est vrai que ça fait quelque temps qu'on le voit venir, qu'on sait que c'est quelqu'un qui peut gagner un grand tour. Il l'a donc fait sur ce Tour d'Espagne, mais comment vous le ressentez, vous qui le côtoyez, en quelques mots, comment vous décririez ce champion?
Eh ben, c'est justement, c'est ça, c'est un champion, et puis c'est vraiment un bon mec, parce que on a quelqu'un qui est très, très à l'écoute des autres, qui est vraiment un meneur de groupe, qui discute avec tout le monde, qui sait fédérer un groupe autour de lui. Donc ça, c'est vachement important. Ça s'est vu lors de la dernière étape de montagne. Là, il a été capable de booster un peu tous les gars pour tirer les dernières énergies qui restaient dans l'équipe, parce que je peux vous dire qu'il y en avait certains qui commençaient sévèrement à coincer le moteur, et malgré tout, on a réussi à appliquer la tactique qui était prévue le matin. C'est quelqu'un de bien. Je donne pour exemple la dernière journée à Madrid, il a demandé à commander 40 maillots pour que chacun de l'équipe puisse repartir avec un maillot rouge dédicacé à la fin de la course. Enfin, c'est des petits gestes de rien, mais ça montre que c'est quelqu'un de vraiment attentif. Quoi. C'est quelqu'un de vraiment qui gagne à être connu.
Bon, Julien, mis à part vouloir piquer le maillot rouge de Barnabé, qu'est-ce que tu voulais dire ?
Non, mais c'est encore... Oui, je vous ai coupé, pardon.
Non, c'est bon.
Non, je disais, ça fait partie des métiers qu'on a de l'ombre, que sont, au même titre, les mécaniciens, les soigneurs, les ostéos. Et votre rôle, principalement, dans une journée de Vuelta, comme on l'a vécu, quand vous voulez le matin jusqu'au soir, ça se déroule comment ?
Dès le matin, il faut essayer de faire un petit peu l'inventaire de ce que les gars peuvent ressentir. Donc, je vais aller par exemple voir les gars. J'ai senti un peu fatigué la veille, et puis se tenir prêt à, par exemple, quelqu'un qui dans la nuit, par exemple, va ressentir une douleur, va se coincer une cervicale. Il faut se tenir à disposition. Après, j'ai l'habitude de filer quand même un petit coup de main aux soigneurs pour les ravitaillements, par exemple, dans la journée. Et puis, dès le soir, dès qu'ils arrivent, il faut se tenir prêt tout de suite pour pas perdre de temps, surtout sur la Vuelta où les transferts sont assez longs, où l'arrivée à l'hôtel se fait vers les 19h, 19h30, voire 20h. Et puis après, on termine la journée quand on a fini le boulot.
D'accord. Et justement, vous intervenez donc comme ostéo, donc c'est la remise en place de cervicales qui pourraient bouger ou autre. C'est vrai que moi, quand je vais chez un ostéo ou autre, il me dit, je t'ai remis en place, mais pas d'effort violent parce que ça pourrait se déplacer. Et donc, je me pose la question, dans un cas comme ça.
Là, c'est complètement différent. L'approche est différente. C'est vraiment on s'adapte vraiment au cas de la compétition. Et puis c'est ce qui fait aussi qu'on intervient quasiment tous les jours, donc évident que 200 bornes tous les jours, ça laisse des traces, ça fatigue l'organisme. Et puis il faut pas non plus, comme on pourrait le faire en cabinet, d'avoir une approche trop invasive qui hypothéquerait la forme du coureur, quoi. Donc ça, c'est, faut savoir s'adapter, quoi.
Guillaume,
c'est un peu différent.
Oui, bonsoir. Moi, j'avais une question. C'est, est-ce que vous aviez été pratiquant vélo ? Est-ce que vous aviez des affinités avec le cyclisme ? Et si oui, est-ce que ça vous aide justement à comprendre les petits bobos des cyclistes ?
Je pense que oui, ça aide à comprendre, parce que j'ai pratiqué le vélo à un niveau régional. Hein, c'est pas du tout le même niveau, mais on arrive à se projeter un petit peu dans ce que peut ressentir un coureur. Je vois par exemple. La blessure à la selle, si on n'a pas pratiqué le vélo, c'est difficile de comprendre qu'une bête irritation au niveau du périnée peut entraîner une gêne, donc un petit décalage du bassin, donc des tensions X, Y, et puis ou dans le cas d'une chute, essayer de comprendre un petit peu comment le coureur peut se blesser, par exemple. C'est des choses, c'est difficile d'imaginer, quoi. On peut pas l'improviser.
C'est vrai qu'on... Je trouve que par rapport à avant, on va davantage essayer de comprendre, en fait, un petit peu, d'aller chercher vraiment la cause, le problème au fond, quoi. Non pas forcément de soigner, mais d'aller chercher le problème. Et je trouve qu'il y a beaucoup plus en plus de gens comme vous, des ostéos, des gens qui vont aller plus en profondeur pour vraiment soigner vraiment à la base.
Oui, c'est ce qu'il faut essayer de faire, bien sûr, plutôt que d'essayer de masquer le problème. Ouais. Ça, c'est évident. Ouais. Et on voit de plus en plus d'équipes où on se côtoie, quoi. On voit de plus en plus d'équipes qui font appel à nous, ça c'est vrai, ouais.
Et avant de vous remercier, peut-être Barnabé, vous avez une anecdote, quelque chose à partager avec nos auditeurs qui aiment bien sur le vélo.
Une anecdote, j'ai un petit clin d'œil à l'invité que vous allez avoir après là, Fabrice là. Donc vous allez pouvoir même lui poser la question en direct. Je sais que sa femme, c'est une collègue, donc un petit point commun avec ce Breton lui aussi.
D'accord, donc la Bretagne, terre de cyclisme et terre d'ostéo aussi.
Ouais, visiblement, oui. Et je vais peut-être aller même faire la course chez lui dimanche prochain, voilà.
D'accord. Il y a une course chez lui, c'est ça ? Qu'est-ce que une rando ?
En départemental, il y a une rando et à Ploubalet et une course cycliste pour les coureurs de départementaux comme moi. Ouais.
D'accord. Bon, en tout cas, on vous souhaite une bonne continuation. La suite, est-ce qu'il y a le contact qui est gardé chez Astana pour la suite, peut-être ?
Ah, oui, pour la suite, ouais, parce que là, on a vraiment un bon groupe et puis vraiment un groupe qui est bien soudé. Donc là, pour ma part, les courses, c'est fini pour la saison. Là. Mon collègue, lui, va intervenir sur les courses italiennes, Lombardie, etc.
D'accord.
Et je vais retrouver les coureurs pour la préparation de la saison 2016 lors du stage au mois de novembre-décembre. Là.
Eh bien, bon programme en tout cas. Et puis, ça nous met le sourire parce qu'on sent que vous êtes passionné de ce que vous faites, Barnabé. Et ben, on n'hésitera pas à vous rappeler pour partager cette aventure, si ça ne vous dérange pas.
Sans problème.
Merci et bonne continuation,
merci.
Barnabé.
Merci, bonne soirée, merci.
Au revoir.
Au revoir.
Et donc, c'était Barnabé Moulin, ostéopathe breton, qui officie dans l'équipe Astana.
C'est très intéressant, hein. J'ai beaucoup aimé cette interview.
C'est vrai qu'il y a beaucoup. Bon, avant, il y avait des soigneurs, mais c'est vrai qu'on cherche par tous les moyens à ce que les coureurs soient au top, à récupérer. Donc, par voilà, des gens comme ça, de l'ostéo, qui vont vraiment aller. Puis, d'autant plus, lui qui fait du vélo, parce qu'il disait qu'il allait courir, donc il doit encore pratiquer sacrément. Donc, ça apporte énormément pour les coureurs, quoi. C'est vrai qu'il va soigner, mais il comprend en même temps de ce qu'il fait. Donc, c'est hyper important pour les coureurs.
C'est une espèce de prestataire, hein. Encore une fois, c'est pas encore un employé de plus dans l'équipe. Là aussi, on délègue.
Ouais, j'avais vu ça, moi, chez Europcar, quand j'ai fait le Paris-Roubaix avec eux, et pareil, ils ont un ostéopathe qui a un cabinet, et effectivement c'est pareil, ils font 40-50 jours dans l'année, mais effectivement ils ne sont pas encore à plein temps. Mais c'est vrai que, comme disait Julien, ça se professionnalise de plus en plus, on le voit même dans certaines équipes, ils ont des repas vraiment préparés spécifiquement.
Il y en a qui font aussi appel à des guérisseurs, à des soigneurs, ouais, aussi, voilà. Il y a beaucoup de recherches qui est fait justement pour mettre toutes leurs chances de leur côté, quoi.
Ouais, parce que c'est vrai que les petits bobos, comme il disait, une petite blessure à la selle, ça peut vite devenir sur un grand tour très problématique. Donc il vaut mieux essayer de le soigner à la base et le plus tôt possible.
Allez, on va parler des mondiaux à présent dans Radio Vélo. Il n'y a qu'un pas.
Est-ce que ça sera le show ?
On espère que les mondiaux de Richmond, avec sûrement une belle bataille dans les 10 derniers kilomètres, encore une fois, non, je plaisante. Les mondiaux, c'est pas toujours comme ça. Oh là là, de suite, quel rabat-joie, c'est Nicolas.
Souvent, c'est ce qui se passe, hein, c'est qu'il y a 280 bornes, puis on attend la fin de la course pour voir ce qui va se passer. Donc, qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre ?
On avait Bernard Bourreau la semaine dernière, le sélectionneur de l'équipe de France, au téléphone. On s'acheminait donc vers l'annonce de la composition de l'équipe. On entre dans le vif du sujet.
Allez, alors la sélection d'équipe de France, c'est Julian Alaphilippe d'Etix, Nasser Bouhanni de Cofidis, Michael Delage et Arnaud Desmarres de la FDJ, Tony Galopin de la Lotto, Cyril Lemoine de la Cofidis, Sébastien Minard de la G2R, Julien Simon de la Cofidis et Florian Vachon de Bretagne.
Voilà les heureux élus. On imagine qu'ils sont tous heureux. Parce qu'ils
de toute façon, je pense, oui. Et pour le contre-la-montre, j'ai oublié Jérôme Coppel de IAM et Romain Sicard de Robcar.
Voilà, deux hommes forts de la Vuelta pour le chrono. Et donc, voilà, pour ce qui est de la sélection, quelle a été la première réaction autour de la table à l'annonce de cette sélection ? Un peu de surprise ? Oui et non, parce qu'on s'attendait quand même à ce que des grands leaders français ne soit pas là, parce que Bourreau nous avait mis en garde mercredi dernier. Il avait dit ceux qui ne sont pas en forme, je ne vais pas les prendre, j'attends de voir jusqu'au dernier moment. Et vraisemblablement, les courses canadiennes n'ont pas fait changer d'avis Bourreau.
Ouais, je pensais qu'il y aurait un Warren Barguil qui on a vu qu'il savait frotter et qui passait bien les pavés, puisqu'il y a quelques secteurs pavés sur ce championnat du monde. Mais sinon, pour les Romain Bardet et tout ça, je ne sais même pas si eux-mêmes étaient très motivés pour faire cette course, puisqu'on rappelle en plus que c'est aux États-Unis, donc ouais. Un voyage, le décalage horaire, tout ça, il faut le gérer. Romain Bardet, Thibaut Pinot.
Non, c'est sûr, c'est plus Rio, tout ça. Vauclair, oui, encore, s'il avait été en forme, peut-être on l'aurait embarqué. Oui, Tour de Lombardie.
Ah, Thomas Vauclair, je sais pas, parce que ça va être une course où ça va beaucoup frotter toute la journée. On sait maintenant que Thomas Vauclair, il veut plus faire ça, ça a dû être entendu.
Rapidement, Nasser Bouhanni, est-il le leader de cette équipe, en tout cas le leader du sprint, c'est difficile à dire, parce que oui, il y a Alaphilippe et Galopin qui vont être un peu co-leaders peut-être sur l'ensemble de la course, mais s'il faut faire la course pour un sprinter, on s'est dit que ça allait être Nasser Bouhanni. Il n'y a pas Coquard dans cette sélection non plus, qui est peut-être le meilleur sprinter ou l'un des deux meilleurs sprinteurs français avec Bouhanni, et je mets Desmarais en 3, qui est dans cette sélection aussi. Vous voulez pas réagir?
Bouhanni, déjà, il faudrait qu'il évite de tomber parce que malheureusement pour lui.
Il est encore tombé aujourd'hui, au Grand Prix de Wallonie, donc ça va pas forcément. Justement, je voulais réagir sur ça, mais ça va peut-être pas forcément le mettre à confiance.
Bon.
Parce que cette année, il est pas souvent rassé sur les vélos.
Il y a eu les débats sur les réseaux sociaux, est-ce qu'il faut prendre Bouhanni et Desmar, personnellement, je vois pas ce que Desmar pourrait dire à Bouhanni et vice versa. Ils ont chacun beaucoup de chemin à faire avant de jouer la gagne, quoi.
Je crois que c'est surtout deux coureurs qui courent complètement différents. Pour moi, ils courent pas deux sprinteurs sur le même registre.
Par exemple, Bouhanni, ça serait plus le sprint après, s'il y a un groupe de 30, par exemple. Ouais. On l'a vu l'an dernier. C'est un circuit pas facile, il est quand même arrivé à faire dans les 10 premiers.
Oui, il a failli le faire au championnat de France.
Ouais, et démarre, ça serait plus un routier sprinter qui pourrait sortir par exemple dans le final de la course pour profiter de sa pointe de vitesse sur un groupe. Je pense pas qu'ils attendront tous les deux le sprint, par contre, on remarque dans cette sélection qu'ils ont chacun au moins un équipier dédié. Parce que Michael Delage, je pense qu'il est là pour Arnaud Desmarais et. Cyril Lemoine, par exemple, doit être là pour Nasser Bouhanni. Je pense que c'est le but de leur sélection.
Desmarais qui cette saison aura remporté deux étapes autour de Belgique.
Oui, ça peut que mettre en confiance, mais
il n'a rien gagné d'autre.
Mais après, ça reste. C'est pas terrible, quoi. Ça fait.
Clairement, on y va avec l'ambition.
On y va bien sûr qu'on y va pour aller gagner. Ouais. On va pas se placer là-bas.
On va gagner plutôt avec un galopin ou un Alaphilippe, mais la condition, c'est dur là.
Il y a de fortes chances quand même. Ça se finisse au sprint, moi je pense.
Mais voilà, avec des costauds comme. Moi, je préférais être le sélectionneur de la Norvège, là, ou de l'Allemagne, non?
Ouais, mais on a qui comme autre sprinter que. Alors, effectivement, tu as dit Coquard, mais après, on a qui d'autre?
Non, mais moi, je pense que la France ne doit pas jouer la carte du sprint depuis quelques années et les années qui viennent. C'est encore compliqué. Quand Coquard, oui, aura peut-être pris la place qu'il doit prendre.
Ouais, mais de toute façon,
de toute façon,
on voit bien que ça va se jouer dans les 30 ou 40 derniers kilomètres.
Ouais. Après, c'est une course où ça va vraiment frotter. En fait, je me suis tracé un peu le profil, là, à la main. Il y a trois côtes. Bon, c'est pas grand chose pour les pros. C'est 250 mètres, 260 et 290 mètres.
C'est des côtelettes.
Ouais, c'est des côtelettes. Par contre,
quand il y a du vent de côté que ça bordure, ces côtelettes peuvent vite devenir des difficultés.
Ouais. Surtout que c'est pour deux d'entre elles des côtes pavées. Et j'ai vu des photos de la première. On arrive au pied par un virage quasiment en angle droit. Et la route est très très étroite. Donc ça va faire bouchon. Je ne serais pas étonné que ça frotte énormément au pied, que ça fasse des cassures en haut. Parce que forcément, avec le coup de l'accordéon, quand un peloton arrive dans un virage serré, ça va casser. Au bout d'un moment, au bout de 230 km, il y a
on fera les pronostics la semaine prochaine. Vous les rajoutez. On accueille Mélanie quand même dans cette émission.
Bonsoir.
Bonsoir. Oui, salut, tu peux.
Bonsoir, hein, j'arrive à la bourre, mais c'est pas grave.
Tu auras un gage alors.
Ce sera retiré sur salaire. Bien sûr, et au niveau de ces championnats du monde, qu'est-ce que vous voulez rajouter d'autre? Mais si on fera les pronostics la semaine prochaine.
J'ai vu que déjà ça a commencé à discuter entre Valverde et
Pourito. Par rapport au circuit qui nous vend, l'ami.
Ce serait plus Valverde qui serait favori.
Ça serait aucun des deux.
Mais Valverde, quand il a envie d'être bon quelque part, il est bon. Mais...
Oui, pour faire deux ou trois, c'est son objectif.
Ouais, mais enfin, est-ce qu'il va pas être un peu essoufflé de la Volta?
Je vois que
cette année, il va être un peu rincé. Là,
voilà. Ouais, là, déjà, ça commence à tirer un peu. Il a fait une sacrée saison. Mmh. Je pense que. Il y va surtout
peut-être
pour épauler.
Tout miser sur Horas pour la quatrième place. Sinon, il faudra voir ce qu'il faut du côté des Espagnols. C'est en tout cas les pays comme l'Allemagne, la Norvège ou même l'Australie. On en parlera peut-être bientôt. Qui pourraient tirer les marrons du feu. On en parle plus en détail la semaine prochaine. Ouais. On va avoir un coureur qui a fait la Vuelta dans quelques instants. C'est Fabrice Jean Desbos qui sera l'an prochain dans l'équipe. Direct Énergie. On verra également, on prendra des nouvelles de Stéphane Pouliès tout à l'heure, la Minute Midi-Pyrénées et puis également la Chronique Matos. Bref, restez avec nous dans Radio Vélo. On revient juste après une petite respiration.
C'est ta radio. Pop, rock, sport. Un gros joint. Quand on sent l'air au travers du maillot. En roue libre et bien sûr sans les freins. Car la retourne.
On y revient, Nico, quoi.
De retour dans notre émission Radio Vélo. Et après avoir commencé à parler de la Vuelta, notamment avec Barnabé Moulin, l'ostéopathe de l'équipe Astana, et après avoir commencé un petit débat sur les mondiaux, on revient sur la Vuelta avec l'un des Français les plus en vue, 17e du classement général, Fabrice Jeandesboz.
Belle perf.
Fabrice, est-ce que tu nous entends?
Oui, bonjour.
Bonjour et bienvenue en direct dans Radio Vélo. Merci de prendre quelques minutes pour donner de tes nouvelles. On imagine en plus que dans la continuité de la Vuelta, le début de semaine a été chargé.
Oui, le début de semaine a été chargé. C'est vrai qu'on attendait tous l'annonce de journée, sa conférence de presse pour le repreneur de l'équipe. Ouais. Donc ça a été une bonne nouvelle. Ouais.
Un beau soulagement.
Oui, c'est vrai que c'est difficile en ce moment de trouver des sponsors. Moi, j'ai connu l'arrêt de l'équipe Sojasun. On avait eu l'arrêt du Crédit Agricole quelques années avant. C'est vrai que c'est pas facile pour les équipes de vélo en ce moment, quoi.
Et oui, tu avais. C'est vrai que c'est l'un des points que je m'étais noté. Tu avais connu donc l'arrêt de Sojasun avant de repartir. Eh bien, grâce à Europcar. Est-ce que là, il y a eu des semaines compliquées ou vous y avez toujours cru dans l'équipe?
Non, je pense qu'on a toujours fait confiance à Jean-René. D'ailleurs, ça s'est vu avec Pierre Rolland et Cyril Gauthier qui ont attendu quand même pas mal de temps avant de finalement signer ailleurs. Mais on était assez confiants. C'est quand même une équipe qui a pas mal d'années derrière elle, qui est médiatique. Donc non, on a fait confiance quand même à Jean-René. Après, c'est sûr, plus le temps passait. Il y a toujours un peu plus d'inquiétude, mais bon, ça va, on a encore quelques semaines, on va dire.
Bon, pour bien faire les choses et être sûr de cotiser à cette équipe, tu nous as fait une très belle Vuelta. Est-ce que tu sentais que la forme était là au départ de la compétition?
Oui, avant d'arriver à la Vuelta, j'étais assez confiant. Démarre prise fin juillet autour de Wallonie, les sensations étaient là. Après, ça s'est confirmé sur la Poli Normande et sur le Tour de l'Ain, où je fais deuxième de la Poli et deuxième ligne étape au Tour de l'Ain. Donc j'étais assez confiant en allant à la Vuelta. Après, c'était plus pour jouer une victoire d'étape. Et finalement, c'est l'équipe qui m'a dit de me donner à bloc sur chaque étape. Et on sait jamais, avec la fraîcheur en fin de semaine, ça pouvait payer. Et puis, c'est ce qui s'est un peu passé. Ouais.
Il y avait deux coureurs en forme en fait dans cette équipe, toi-même et puis Romain Sicard. Comment vous avez géré la compétition du coup?
Du coup Romain, c'est vrai qu'il était c'est lui qui était le leader de l'équipe. Après, vu qu'il avait fait le Tour de France, au niveau de sa condition, on n'était pas trop sûr est-ce qu'il allait tenir les trois semaines ou pas. C'est vrai que c'est la première fois qu'il enchaînait deux grands tours, donc l'équipe m'a mis un peu comme joker, quoi. On était les deux coureurs protégés. Après, avec Romain, c'est vrai qu'on s'entend très bien. On faisait chambre ensemble. Et puis, on a fait un peu chacun notre course. Et puis, tous les deux, on est classés au général. Ouais.
J'avais une question par rapport à...
Oui, alors bon, tout d'abord, félicitations pour cette Vuelta. Donc, comme tu l'as dit, Romain Sicard et toi, vous aviez pas tout à fait le même rôle. On a vu que tu t'accrochais vraiment souvent au groupe des favoris. Encore plus vu puisque tu étais parfois le seul Français à t'accrocher dans un groupe de 10-15. Et je voulais savoir, tout d'abord, vu que tu as fait le Tour de France, si l'école de la Vuelta te convenait mieux que ceux du Tour de France. Et après, quel coureur t'avait le plus impressionné sur cette Vuelta?
Oui, je pense que l'école de la Vuelta, c'est l'école beaucoup plus raide, moins long. Bon, c'est l'école qu'on pourrait dire un peu qui ressemble plus aux Pyrénées qu'aux Alpes. Et c'est vrai que j'ai trouvé que j'étais plus à l'aise dans l'école vraiment très dure que l'école roulant. Je vois l'étape que gagne Frank Schleck. On avait l'avant-dernier col était très roulant. J'étais pas forcément bien dans ce col-là. Je m'accrochais. Et dans le col final, c'était vraiment des gros pourcentages à 20-25%. Et là, je me trouvais beaucoup mieux. Ouais. Donc je pense que la Vuelta me correspond mieux. Après, c'est moins stressant aussi comme course que le Tour de France.
Et justement, après, je te coupe. Quel braquet vous aviez pour cette étape-là?
Cette étape-là, on avait 34 en petit plateau, puis 29 à l'arrière. Ouais. Et c'est vrai qu'on était tout à gauche, quoi. J'aurais pu avoir un plus grand, je l'aurais mis, ouais.
Ah, mais à la télé, c'était impressionnant. C'était impressionnant.
Ouais. Ouais. Moi, c'était la première fois que je faisais des écoles. D'école
34-29.
Ouais. Et après, en coureur qui m'a impressionné, je dirais Tom Dumoulin. C'est vrai que ça a été la grosse surprise de la Vuelta. Et moi, je pensais qu'il allait gagner la Vuelta. Après, j'ai entendu dire qu'il était malade pour la dernière étape de montagne. Mais c'est vrai que les jours d'avant, il était impressionnant. Il s'accrochait toujours et il perdait quasiment pas de temps. Ouais.
De ton côté, Fabrice, la fin de saison, il reste quelques courses au menu?
Non, j'ai fini du coup dimanche dernier. La saison est finie, là, ça y est.
Bon, donc on te dérange en pleine vacances?
Non, ça va. Je continue toujours à rouler un peu là,
ouais.
Pour pas couper trop tôt. Je vais continuer à rouler jusqu'à début octobre, donc je reste chez moi encore à rouloter un peu quand il fait haut.
D'accord. Donc en Bretagne, c'est ça, Fabrice, toi aussi?
Oui, c'est ça, ouais, à Ploubalay, donc pas très loin de Saint-Malo.
Donc je sais pas si tu as entendu tout à l'heure, le début de l'émission, on avait Barnabé Moulin, l'ostéopathe de l'équipe Astana, qui est breton lui aussi, et qui nous disait de te faire un petit clin d'œil, parce qu'apparemment, à la maison, tu as quelqu'un aussi qui est ostéopathe.
Oui, ma femme est ostéopathe, ouais. Donc c'est vrai que je suis bien servi à la maison dès que j'ai un bobo, et puis j'en ai eu pas mal les dernières années. Donc oui, elle est ostéopathe aussi.
Peut-être un mot sur la saison qui vient pour terminer avec donc Direct Energy. Il y a eu le premier contact hier. Je sais pas si tu l'as vécu de l'intérieur. Tu y étais peut-être?
Non. Moi j'ai suivi ça sur internet en fait, sur les réseaux sociaux où ça a été mis très vite à jour. Et puis donc après on va en discuter. On va en discuter prochainement avec Jean-René. Donc normalement.
D'accord.
Je devrais faire partie de l'équipe l'année prochaine, ça n'y a pas de souci. Et puis on verra un peu faire le point pour l'année prochaine sur tout ça, ouais.
Oui, moi bon, à propos de Direct Energy, justement, il y a des échos comme quoi donc l'équipe ne repartirait pas avec Colnago. Est-ce que vous avez déjà vous des échos de votre côté sur le matériel qui sera utilisé?
Non, du tout. J'ai appris ça, pareil. Bon, on avait des bruits comme quoi on allait peut-être ne plus avoir Colnago. Mais après, c'est vrai qu'on a vraiment pas de nouvelles sur le prochain partenaire au niveau du matériel. C'est comme Direct Energy, hein, on l'a appris vraiment comme tout le monde hier. Le secret avait bien été gardé jusqu'au bout. Hein.
D'accord. Benjamin, pour finir.
Oui, pour parler de la saison 2016, vu que maintenant tout le monde a vu que sur Grand Tour, tu pouvais envoyer du lourd. Est-ce qu'il y a une épreuve ou une autre que tu aimerais préparer avec peut-être un autre statut l'an prochain?
Bah ça, on va voir. C'est vrai qu'il y aura Romain aussi. Après, j'aime beaucoup les courses en Espagne. Je sais que le Tour de Catalogne, c'est une course que j'aime bien aussi. Donc toutes ces courses-là, pourquoi pas avoir un statut un peu plus protégé. Donc ça, on verra aussi en fonction du programme de course de l'équipe et des coureurs. Ouais.
Bon, mais je crois qu'on a fait le tour. Merci en tout cas, Fabrice, d'avoir pris quelques minutes pour passer dans Radio Vélo. Et on te souhaite une intersaison studieuse, alors.
Ok, bah oui. On va bien travailler pour l'attaque l'année prochaine. Ouais.
Merci, Fabrice Jeandesbos. À bientôt dans Radio Vélo.
Merci.
Bonne soirée.
Merci.
Merci.
Au revoir.
Au revoir. Et voilà, des nouvelles de notre ami Fabrice Jeandesbos, très sympa, très dispo. Hein.
Et comme quoi, on n'était pas les seuls ici à croire en Tom Dumoulin, hein, en début d'émission, là, Fabio Haro.
Mais chance.
Ça changera pas le classement, mais jamais tu peux le dire autant de fois que tu veux. Bon, en tout cas, très très sympa Fabrice Jeandesbos. Et puis voilà, l'info donc a été bien gardée. Et puis pour le matériel, Guillaume, faudra revenir en troisième semaine. On essaiera d'avoir des nouvelles. Allez, après les mondiaux, on repassera un petit coup de fil du côté de Direct Energy. Au moins savoir les tarifs quand même du gaz. Bon, mince, après tout. C'est pas tout. Parlons un petit peu de cyclisme régional parce qu'on va voir Stéphane Pouliez dans quelques instants. On a la minute du comité.
Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.
Les actus régionales, elle est toute bronzée d'avoir passé tout le week-end à la Prairie des Filtres. Non, il faisait pas beau ?
Non, pas terrible.
Bon, on dit jamais qu'il fait moche à Toulouse, Mélanie, il faut t'y habituer.
J'ai pas dit moche, j'ai dit pas terrible.
Ah d'accord, mais en tout cas là, il fait plus de 30 degrés dehors. Je vois des photos là sur les réseaux sociaux un petit peu des autres endroits. Bon, c'est pas la joie partout. Chaud, oui. Aujourd'hui, petite manchette pour tout le monde. Et donc, un petit retour, c'est ça, sur cet événement, comment ça s'est passé le week-end dernier ? Alors, c'était bon, Sentez-vous Sport,
ouais,
c'est ça ?
C'est ça, Sentez-vous Sport, donc organisé par le Cross et le GDOS. Samedi, très moyen, on a eu très peu de visites. Et par contre, dimanche, on n'a pas arrêté toute la journée. Au total, sur les deux jours, c'est 150 enfants qui ont essayé soit les BMX, soit les petits VTT, soit le simulateur de course. Donc ça a été plutôt chargé comme week-end, mais très content. Et pas mal d'enfants vont s'inscrire apparemment, donc voilà.
Donc le vélo attire bien, ça ouais. Va, ça marche bien. Bon,
surtout le BMX, faut pas le cacher, mais...
D'accord, les, ouais. les vélos pluriels, hein, c'est ce qu'on ouais. dit souvent, Julien. D'ailleurs, on fera des émissions un peu spéciales, je pense, cet hiver là-dessus.
Exactement. Enfin, le cyclisme regroupe, comme on l'avait déjà dit, pas mal d'activités, pistes, cyclo-cross, BMX, trial, descente, cross-country, etc. Donc, il y a vraiment l'activité, on y reviendra.
Il n'y a pas un certain Peter Sagan qui a commencé par le BMX ou
il y a plein de coureurs qui ont commencé par cette épreuve-là.
Il est toujours moyenne.
Et fait le théâtre aussi, petit, je pense, Peter Sagan. Mélanie, d'autres actus
Je vais arriver. Désolée, je suis un peu fatiguée.
On passe directement au sport,
de stage,
au cyclo-cross.
Il y a stage cyclo-cross, ouais.
Déjà, vous ouais. faites des stages au cyclo-cross.
Ouais. Bah, oui. Pour commencer la saison, quoi, ça débute le 4. Donc c'est vrai que c'est pour juger un peu l'état de forme des jeunes. Donc ça s'est plutôt bien passé. Julien peut en parler parce qu'il y a.
Ouais, en fait, il y avait un regroupement organisé par le comité régional donc sur Albi, en fait.
Ouais. Sur le site de l'ancienne piscine où avait lieu.
Voilà, où il y a eu lieu un championnat Midi-Pyrénées en 2005 ou 2006, dans cette saison-là. Donc il y avait les cadets, cadettes, juniors qui étaient là présents. Donc il y avait 14 coureurs. Donc ça a permis un petit peu de voir l'état de forme de certains coureurs déjà. Donc ont été sélectionnés les coureurs qui ont été champions Midi-Pyrénées l'an dernier ou vainqueurs des trophées ou très bien placés. Savoir que la saison régionale va commencer le 4 octobre à Villemur, sur Tarn, mais des épreuves hors région vont commencer, ils ont déjà commencé, hein, donc voilà, ça permet un petit peu de faire un petit peu l'état des troupes, sachant que le week-end d'après, il y a la première manche de Coupe de France qui va se dérouler à Albi, donc nous avons reconnu aussi le parcours d'Albi donc à pied, puisqu'il est interdit de rouler à vélo, et voilà, ça permet un petit peu de faire l'état de santé de chaque coureur, et puis déjà de préparer, hein, parce que bon, voilà, les Coupes de France vont arriver très vite, il faut préparer. Paraît démêlant, quoi.
Ouais. Avec un Lodelino plat plutôt en forme.
Ouais, Lodelino plat qui était pas mal en forme. Nathan Mandepit est vraiment, vraiment très fort, quoi. C'est un gamin qui a déjà 2-3 ans d'avance au niveau morphologique, qui est déjà vraiment, vraiment très costaud. Je crois qu'il y a une bonne petite graine de jeunes qui arrivent là, qui sont vraiment motivés par ce cyclocross. Je pense que le cyclocross a vraiment, vraiment pris ses quartiers. On voit qu'on cette année, on a un calendrier qui est vraiment très, très fourni. Et je pense que l'ajout des écoles de vélo dans ces épreuves-là, qui était avant destiné uniquement aux juniors et seniors. Aujourd'hui, on a les féminines, on a toutes les catégories. C'est plein toute la journée et les gamins découvrent une nouvelle discipline et qu'ils affectionnent et on se retrouve avec plein de monde. Donc, c'est super, quoi.
Voilà.
Bon, on a été complet. Tu voulais rajouter quelque chose, Mélanie ?
Non, je voulais juste remercier les bénévoles qui ont été présents sur Sentez-vous Sport. Donc, Jérôme Weiss, Frédéric Sorbet, Gilles Girardot et Henri Lafargue qui ont été présents. Et toujours pour remercier... Laurent Durvel et oui. Frédéric qui ont encadré le stage exactement. De cyclocross.
D'accord, et bien ouais. évidemment, toute l'actualité du cyclisme régional en Midi-Pyrénées sur le Twitter.
Quelques infos. Donc,
Midi-Vélo et notre ami Jean également.
Ouais, notre ami Jean qui m'envoie infos. Quelques infos. Donc Guillaume Dalméda qui était à Alias Montauban qui rejoint le SGSC Blagnac Vélosport. Et également Kevin Soubès qui est de Périgueux-Dordogne qui rejoint ici le Blagnac Vélosport 31. Un ancien Pyrénéen donc, qui passe pro donc, dans l'équipe Direct Énergie, donc la personne de Lien Calmejean.
Oui, je pense qu'on l'appellera dans les prochaines semaines.
Signaler course challenge direct BBB direct vélo, donc Lien Calmejean prend la première place, la deuxième place Stéphane Pouyès.
Le Tarn domine.
13e place Romain Campistrou, 14e place Anthony Pérez, voilà donc ça. Et une dernière info hors région qui est sortie tout à l'heure, hein, un certain René Limoges, ancien président du Corps Vélosport, que j'avais vu il y a quelques temps du côté de Serre-Castet, du côté de Pau, donc ils sont en train de. Qui vont monter une DN3, qui sont candidats à la DN3, et l'équipe s'appellera le Team 64, voilà, donc avec quelques coureurs déjà présents. Donc voilà, des DN3 qui sont un petit peu partout. Voilà pour les infos hors région et hors région.
Allez, ben on va prolonger avec un invité régional, Stéphane Pouliès, qui a enchaîné les victoires cette année. On l'avait appelé à plusieurs moments lorsqu'il était pro, lorsqu'il a également lorsqu'il est retourné chez les amateurs, également à Montage Truc. Enfin, on le suit un petit peu tout le temps, Stéphane Pouliès, et on a envie de prendre de ses nouvelles en cette mi-septembre après cette très très belle saison, parce qu'il fait partie des cyclistes régionaux, messieurs.
Oui, c'est vrai qu'il fait partie des cyclistes régionaux qui, en plus, qui marche, hein, parce que toute l'année, il a eu de très bons résultats. Là, on va peut-être essayer d'en savoir plus sur ce qui va, ses objectifs pour l'année prochaine, voir ce qu'il va nous faire.
Eh ben on va lui demander justement de ses nouvelles à Stéphane, qui était notamment en Catalogne la semaine dernière, c'est ça, Julien?
Je suis là. Oui, c'était ce week-end à Olot, donc il est en train d'écraser, quoi. Il a rien à faire chez les amateurs. Je pense que peut-être qu'il va nous le dire, hein, peut-être qu'il a une autre vision de ce que c'était le vélo et de peut-être plus plaisir. Et aujourd'hui, il a des résultats qui sont impressionnants cette année. Bonsoir Stéphane, comment tu vas?
Bonsoir à tous, ça va, merci, très bien.
Qu'est-ce que c'est qui t'a transcendé comme ça là?
Cette année, le plaisir avant tout, et comme je l'ai dit à tous les cours de l'Occitane, avec le plaisir, on arrive à faire de belles choses et c'est le plaisir pour aller rouler à l'entraînement, le plaisir d'aller en course, et avec ça, sur le vélo, les résultats ils viennent. Et cette année, grâce à tout ça, 12 victoires, etc., 8 places de 2.
Bon, et c'est ce week-end en Catalogne, donc ça s'est encore une fois très, très vite, très bien passé, c'est ça?
Ouais, c'est vrai que c'était un peu la course un peu rêvée pour l'Occitane, parce qu'on s'est retrouvé à deux dans l'échappée de 10 coureurs. Puis on s'est retrouvé à deux sur trois. Et voilà, pour le final, on a très bien manœuvré.
C'est Rémi qui est avec toi?
Ouais, Rémi Benarfa, ouais, qui était avec moi. Bon, malheureusement, j'aurais bien voulu qu'il gagne à ma place, mais sur l'attaque, sur la dernière attaque que j'ai pu mettre, je suis parti et lui, il avait qu'à attendre avec l'Espagnol et il a battu au sprint pour la seconde place. Oui.
Ouais, donc vous avez absolument très très bien manœuvré. J'en discutais avec un des encadrants tout à l'heure là, qui m'explique un petit peu certaines péripéties avant le départ et pendant la course. Ça, 12e victoire, 2e au classement. Je disais tout à l'heure, BBB Direct Vélo. C'est la page tourne chez les amateurs, ça repasse à côté ou quoi?
Ouais, après, c'est vrai que cette année, début de saison, je pensais que j'allais jamais refaire de vélo parce que j'avais passé 2 ans difficiles chez les professionnels.
C'est ce que tu nous disais quand on t'a vu en début d'année, que tu pensais vraiment passer à autre chose, quoi, finalement.
C'est ça. J'avais déjà préparé un peu ma reconversion avec le club d'Abby. Je pensais vraiment à mon futur pour entrer dans la vie active, entre guillemets. Ces derniers temps, c'est vrai qu'il y a 4 équipes professionnelles qui m'ont contacté. Et je suis en train de réfléchir énormément à mon avenir professionnel. Du coup, on réfléchit en famille. C'est des décisions qui ne sont pas faciles à prendre parce que avec l'année que j'ai pu faire avec l'Occitane, avec les coureurs qui la composent, les dirigeants, les bénévoles, c'est vrai que la décision est difficile à prendre. Mais après, il faut que je pense à ma reconversion ou soit continuer chez les professionnels. Ouais.
Et qu'est-ce que Stéphane a envie de faire? Est-ce que c'est ça au final?
Moi, j'ai envie de me faire plaisir. Du coup, la décision se portera surtout sur le plaisir. Du moment, comme je disais tout à l'heure, qu'il y ait ce plaisir-là, les résultats vont avec. Alors, la décision se fera surtout sur ça. Et l'équipe que je choisirai, pour moi, sera je pense, du côté de l'ambiance, du côté des courses qu'on fera. Ouais.
D'accord. Et justement, est-ce que bon, c'est vrai que c'est, tu le disais, hein, c'est hyper important que de, c'est hyper important que d'avoir voilà une la passion, l'envie, le plaisir surtout avant tout. Justement, est-ce que il n'y a pas des choses qui seraient encore à concrétiser en passant pro, en refaisant du vélo avec cet état d'esprit que peut-être, ben c'était un petit peu parti dans l'autre équipe et qu'aujourd'hui tu as retrouvé goût et qui fera peut-être qu'on va retrouver un nouveau Stéphane Pouillet se transcender quoi.
Ouais, c'est vrai que, enfin voilà, si je prends si je suis dans la même optique que cette année. C'est vrai que j'ai ma carrière encore devant moi et je pense que je suis capable parce que ce plaisir-là, je l'avais chez Source Lassen et voilà, j'avais pu gagner plusieurs reprises et du coup maintenant je me dis pourquoi pas encore ouais, voilà, continuer l'aventure et gagner des courses et peut-être aussi aider une équipe à pouvoir gagner aussi.
Messieurs,
c'est un beau programme en tout cas et c'est fidèle au discours de Stéphane. Mélanie, une question peut-être?
Donc je sais que tu es très proche des coureurs de l'Occitane et tu as notamment pas mal encouragé Mathieu Caramel, donc je voulais savoir un peu ton rôle au sein de cet effectif de l'Occitane.
Ben, mon rôle c'était simple, c'était un peu capitaine de course sur les courses parce qu'en plus l'Occitane est monté en DNE cette année, du coup un peu c'était de voilà guider le groupe et c'est ce qui me fait plaisir, c'est que en début d'année il y avait un groupe à l'Occitane très peu heureux, toujours à se poser des questions sur les courses et en fin d'année on le voit avec beaucoup de coureurs, dont Rémi là, qui fait deuxième sur une très belle épreuve.
Ouais, Rémi qui a sacrément progressé, Rémi. Hein.
Et d'autres, ouais, comme Mathieu Caramel qui est deuxième quand même des champions de France.
Ouais, ouais.
Quatrième sur une Coupe de France. Enfin, ça fait énormément plaisir et c'est ça démontre enfin, le progrès qu'a pu faire l'Occitan cette année. Ouais.
Ouais, je pense que c'est ce qui est important et tu le soulignes, c'est vraiment de refaire. Bien sûr qu'il y a le résultat, il y a la pression, mais avant tout le plaisir. Et je pense que quand le plaisir, comme tu le dis, il est là, automatiquement les résultats après arrivent derrière. Et tu l'as démontré par toi-même. Alors que des fois, de trop mettre la pression au coureur, en fait, on est à contre-courant et le coureur, au lieu de marcher, ben, il s'enterre.
Ouais, c'est ça. C'est vrai que cette année, on avait. Aucune pression, c'était surtout faire le meilleur résultat possible. Après, il y a eu des débriefings d'après-course où il a fallu remettre les points sur les i parce que la tactique de course n'était pas suivie. Du coup, certains coureurs se sont aperçus et voilà, grâce à ça, beaucoup d'entre eux ont pu vraiment progresser. Cette année, ça fait plaisir et comme ça l'année prochaine, bon, je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'entre eux là qui pourront gagner des courses. Ouais.
Benjamin, une question peut-être?
Oui, bonsoir Stéphane. Tout ce que tu dis là, ton dégoût sur le monde de pro quand t'es parti et maintenant ces retrouvailles de plaisir en tant que capitaine de route qui en plus fait énormément de résultats, ça me fait penser un peu à ce qu'a vécu Julien Loubet également. Et qui cette année est repassé chez les pros avec vraiment du succès. Est-ce que ça peut t'inspirer? Est-ce que tu y penses aujourd'hui ou tu dois réfléchir à ce que tu feras dans l'avenir, à ce qu'il a fait lui?
Ouais, c'est sûr. Après, bon, c'est pas un dégoût du monde professionnel. Je l'avais pas. C'était surtout un dégoût sorti d'une équipe. Ma dernière équipe, c'est surtout ça. J'ai été dégoûté à cause d'eux. Enfin voilà, c'est pas le monde professionnel qui m'a dégoûté, c'est juste une équipe et c'est sûr que Julien Loubet, ce qu'il fait, pareil. Enfin voilà, je suis passé cette année comme lui dans les rangs amateurs et l'année prochaine voilà retourner sûrement chez les professionnels pour suivre son parcours, mais c'est vrai que lui, il a eu de très bons résultats arrivé chez les professionnels.
Bon, mais on va remercier Stéphane, messieurs.
On va attendre avec impatience sa décision, parce que bon, il nous a dit qu'il y avait 4 équipes, on ne sait pas lesquelles c'est. Je pense qu'il va garder ça bien secret, mais on va attendre avec impatience, voilà, de savoir à quelle. J'espère qu'il va choisir une équipe.
Et peut-être que Radio Vélo pourra avoir la primeur de la formation.
Ah, je sais pas, ou en tout cas.
Je pense que le club de l'Occitane est l'équipe que j'aurais choisi. Je pense que. Évidemment, ils seront et vous serez
content
avec eux.
Ouais. Bon, mais c'est tout à fait normal. En tout cas, on connaît ta façon de faire, Stéphane, et on te remercie de ta disponibilité toujours très, très sincère dans les déclarations. Merci, Stéphane, d'être passé dans Radio Vélo.
Merci
Stéphane. Merci, Stéphane. Merci,
à bientôt. Au revoir.
Ciao.
Et donc voilà, c'était Stéphane Pouliez d'un Radio Vélo. Ben ouais, décidément, que des mecs sympas aujourd'hui.
Quatre équipes, ouais, pas une équipe.
C'est ce que j'allais dire.
Quatre équipes,
c'est quand même c'est-à-dire pas rien. Il a le choix.
Il a le choix, quoi. C'est pas, il a couru un amateur, là, il revient, il a fait quelques petits résultats, il y a une équipe qui aime où lui va démarcher. Là, c'est quatre équipes qui en auraient recruté, quand même. C'est quand même pas rien, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui croient en lui, quoi.
Ouais, et puis, il a le luxe de pouvoir se permettre de dire, je préfère celle-là parce que peut-être que, psychologiquement, je serais mieux là-bas.
Justement, est-ce que, encore une fois, dans certaines équipes, puisque c'est son cas, lui, il a dit qu'il avait un certain dégoût. Est-ce qu'il y a justement certaines équipes qui vont mettre plus en condition que d'autres, des coureurs qui vont faire que ça va les brider, quoi.
Moi je sais pas s'il va privilégier une World Tour ou une Continental, je ne sais pas ses offres, mais moi je verrais bien dans une Conti, en étant vraiment quelqu'un qui compte, quoi, plutôt que d'être dans une World Tour où on ne choisit pas toujours son rôle. Et il sait de quoi il parle parce qu'il a connu ça.
Enfin, il a bien compris que maintenant, il a bien compris, il a dit lui-même, c'est d'abord du vélo plaisir, donc je peux penser qu'il va aller choisir une équipe où on va pas lui mettre la pression comme peut-être on l'a lui metté, et qu'il va justement se. Peut-être on va retrouver un nouveau Pouliez.
On continue avec Guillaume, peut-être, avec la chronique Mato. Julien, je suis sûr que tu as quelque chose sous le coude.
Non, pas encore, Nico. Là, t'as dit pour toi.
Non, t'as rien du tout. Guillaume, lui, il a plein de choses à nous raconter.
Mais si. De toute façon, ça parle qu'argent avec Guillaume. Chaque fois qu'il parle matos, c'est argent.
Bon, quoi de neuf, Guillaume ?
Quoi de neuf ? Plein de choses encore. Hormis une péripétie en Italie.
Si quelqu'un retrouve une carte d'identité du côté d'Italie, là-bas, au prix,
je peux lancer un appel. Si vous avez une carte d'identité au nom de Guillaume Robert que vous avez trouvée dans l'aéroport de Milan, vous pouvez me la renvoyer, s'il vous plaît.
Une valise, après, bon, plein de choses.
La valise, elle est arrivée, c'est bon. Donc, en nouveauté cette année, Mavic qui va sortir des nouvelles Cosmic Ultimate. Alors, c'est pas une grosse nouveauté. Ils avaient déjà sorti l'année dernière avec un serrage type boa. Cette année, ils la sortent avec deux serrages. Donc voilà, c'est pas la grosse nouveauté. Sauf que les serrages sont quand même faits par Mavic cette fois-ci. Jusqu'à présent, ils se fournissaient ailleurs. Donc voilà, une petite nouveauté. Ensuite, Conlago, on en parlait tout à l'heure. Donc, il apparemment ne continuerait pas le sponsoring avec... Europcar, donc Future Direct Energy. Là, on peut parler d'argent d'ailleurs, qui sort des éditions limitées de deux vélos, le Colnago C60, qui sort en édition limitée à 100 exemplaires à 10 600 € chacun. Donc, si tu fais des bons paris sportifs, tu pourras peut-être en acheter
un. Ouais, ou sinon, j'irai au resto, avec les paris sportifs.
Voilà. Et un autre, l'autre vélo, donc l'autre haut de gamme de chez Colnago, le V1R, qui sort en. Une édition limitée de 50 pièces à 11 500 € chacune. Donc voilà, c'est pas de grosse nouveauté chez Colnago cette année. Ils sortent des éditions limitées comme ils ont l'habitude de le faire pour faire patienter, je pense, le public. Après, quelque chose de beaucoup moins cher, pour une fois, Sigma qui a sorti un petit, ce qu'ils appellent un brake light. C'est une petite diode, un petit appareil qu'on met sur le câble de frein arrière.
Tu l'avais déjà parlé de ça?
Je sais pas si j'en avais déjà parlé. Je pense pas.
Non,
je crois pas. Et donc voilà, c'est quand on freine, ça s'allume. Donc tout le monde attendait depuis longtemps un feu de stop. Je pense que ça servira surtout aux cyclistes urbains, mais pourquoi pas aussi sur la route. Et c'est un petit composant qui coûte 8,95 €. Donc voilà, pour une fois, je parle pas que d'argent. Et ensuite, je vais parler rapidement quand même de mon périple en Italie. Donc en fait, j'étais invité par Polartec. Alors, je sais pas si les gens connaissent Polartec autour de la table. Moi, je connaissais pas trop, j'en avais entendu parler. Donc ils fabriquent des vêtements pour vélo, et en fait ils se sont inscrits dans tout ce qui est développement durable. Ça veut dire qu'ils font le 50% de leur production est réalisée à partir de bouteilles plastiques recyclées. Donc là, cette année, je crois qu'ils ont atteint le milliard de bouteilles recyclées. Et j'ai pu discuter avec le patron de la marque, Gary Smith, et il s'inscrit vraiment dans cette politique, vouloir à tout prix recycler un maximum de produits pour fabriquer ses vêtements. Il veut même aller plus loin, c'est-à-dire créer des usines en Europe pour approvisionner tous les magasins en Europe, créer des usines aux États-Unis pour approvisionner les magasins aux États-Unis, pour éviter tout ce qu'on connaît, tout ce qui est fabriqué en Chine, qui vient par bateau, etc. Donc voilà, c'est vraiment une politique complète, on va dire, écologique. Donc moi, j'ai bien apprécié la chose. Je suis un peu porté, on va dire, sur l'écologie. Donc voilà, c'est les vêtements, j'ai pas encore totalement testé. J'en ai eu, je vais les tester cet hiver.
Ouais, mais c'est pas la période pour les tester.
Non, surtout aujourd'hui avec 30 degrés, je me suis pas amusé à tester un maillot manche longue. Mais voilà, ils font surtout des vêtements hiver. Et bah voilà, c'est de l'écologique pour les cyclistes qui apprécient l'écologie, peut-être des produits.
Ceta Radio,
Pop, Rock, Sport, Nord-Pas-de-Calais. Une session live depuis les studios Ceta Radio de Arnes. Rendez-vous le 27 septembre à 18h avec The Escarpist. It's the Nord Acoustic Show by Ceta Radio.
L'amour est une descente à vélo, un tour de France, un gros joint.
De retour pour terminer cette émission, messieurs, on était avec Guillaume qui nous parlait de son voyage italien, de ses cols grimpés aux côtés d'Alberto Contador.
Des infos.
Pas trop longtemps. J'ai grimpé un col, mais je suis arrivé avant lui, mais je suis parti très longtemps avant lui, donc ça compte pas. Non, mais j'en ai profité parce que j'étais au restaurant la veille avec Alberto Contador. On était dans le même hôtel. On a pu discuter un peu.
Il mange bien au resto.
La viande.
Ouais, il mange bien, mais ouais, la viande, on n'a pas osé lui demander d'essayer de regarder si moi j'ai la viande. Il y a un journaliste qui voulait poser la question, qui était avec nous, un journaliste français, on lui a dit pas bonne idée.
Pas bueno.
Voilà, on lui a posé quelques questions, même si c'était pas facile, parce qu'il parle quasiment qu'espagnol et le traducteur parlait qu'anglais et espagnol. Donc une des infos, on lui a posé la question, est-ce que pour lui c'était faisable de gagner 3 grands tours dans la même année? Il nous a dit clairement non. Maintenant. Les saisons sont trop longues et le niveau est tellement relevé que pour lui, ça paraît impossible actuellement de gagner les 3 grands tours. Et donc aussi, il a annoncé donc que le Tour de France de l'année prochaine serait son dernier Tour de France, que c'est sa dernière année en tant que professionnel. Il veut arrêter l'année prochaine.
Pas si vieux que ça, hein, Contador.
Non, pas si vieux que ça. Après, il a fait une belle carrière. Et, il a dit qu'il voulait arrêter sur une très très bonne note. Donc, ouais. Il va se donner à 100% pour le Tour de France. Il va se préparer à 100% pour le Tour de France.
On aimerait le revoir à 100% sur le Tour.
Voilà. Et il veut pas finir comme certains coureurs, faire l'année de trop. Donc, je crois que
s'il gagne le Tour de France, il va sur la Vuelta pour tenter le doublé.
Voilà.
Il faut gagner déjà le Tour de France.
Voilà. Déjà ouais. il va ce premier objectif. Après, je pense qu'il avisera.
Et avec Tonton Tinkoff dans la bagnole, faut s'accrocher. Hein.
Voilà, donc.
Il achètera d'autres équipes, ça ira.
Donc voilà, c'est échange très intéressant.
Très intéressant,
avec Alberto,
une expérience exceptionnelle, en tout cas. De plus, dans ton petit livre de souvenirs.
Voilà, même si son attaché de relations presse nous a dit qu'il avait grossi. Il a pris apparemment 2-3 kilos, mais ça se voyait pas. Super expérience à refaire, j'espère. Mais voilà, donc j'étais dans les Dolomites. Pour ceux qui en connaissent pas, franchement, c'est super sympa pour rouler. De très jolis cols, apparemment, qui ressemblent beaucoup aux Alpes. Mais si vous avez un jour l'occasion de partir dans le nord de l'Italie faire des vacances, n'hésitez pas, c'est super sympa.
Le reportage, c'est sur le site
matosvelo.fr, mais pas tout de suite, il faut que je le prépare. Il faut
qu'il retrouve sa valise d'abord.
Non, la valise, elle est arrivée, mauvaise langue. C'est la carte d'identité.
Allez, avant de terminer cette émission, Mélanie, les courses autour du Midi-Pyrénées, autour du studio Radio Vélo.
Alors déjà, Guillaume, si t'as besoin d'un traducteur, je suis là.
Pour la prochaine fois, je l'amène dans ma valise.
Moi, je te parle espagnol aussi, pas de souci.
Alors ce week-end, samedi, donc il y a la première partie de la piste qui se fera à Foix, parce qu'à Tarbes, ça a été annulé samedi dernier.
Ce week-end à cause des conditions météo. Voilà.
Ensuite, samedi toujours, il y a le Grand Prix des Fêtes de Vic-Fezensac, dans le 32. Dimanche, le Prix des Fêtes de Villemur. Dimanche toujours, la 11e cyclosportive Georges Guay. Et dimanche encore, logique, le Grand Prix de la municipalité et du comité des fêtes de Saint-Cyprien
sur Dourdou, dans l'Aluron.
Et dernière course du week-end, la première rando des vendanges à Gaillac.
Ah bon, ça, ça m'intéresse davantage.
Côté course, samedi, il y a Nufoulep, il est 14h Nufoulep à l'arrêt d'Angers. Dimanche, il y a la tombe du Ramier, Nufoulep organisée par Vélosport Montalbanais. On a un FGT, le Grand Prix de Balma. Et je vais terminer par la ronde gaillacoise. Voilà pour les petites courses qu'on a sous toute fédération.
Et bien merci, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même lieu, avec des invités exceptionnels. À quelques jours des championnats du monde, avez vos pronostics mauvais, soit-ils, mais avez vos pronostics
on verra
si,
Burrito,
si on a des bons conseils Paris pour aller avec Guillaume après. On vous souhaite une bonne semaine et vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le podcast, alors n'hésitez pas à le partager. Ciao, bonne semaine.
Ciao, bonne soirée.
Il est quelle heure au Guatemala? J'ai jamais pris de fusée horaire, toujours suivi les mêmes schémas. Car la retourne. C'est la villa, Inch'Allah. Carla, retourne.